This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Aujourd'hui, on va vous parler de Reddit qui est toujours en crise, de l'UE qui veut forcer les fabricants de smartphones à intégrer des batteries facilement remplaçables et de Elon Musk qui est venu dire bonjour à Vivatech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech épisode 518. Nous sommes en juin 2023, je suis Patrick Béja et je reçois aujourd'hui, pour m'aider à commenter l'actu tech, Marion et Christophe. Bonjour Marion, bonjour Christophe, comment allez-vous aujourd'hui ?
Bonjour Patrick, bonjour Christophe, très très bien, ravi d'être en si bonne compagnie en ce jour.
Est-ce que l'épisode précédent où tu aurais dû être là, tu étais en vacances. J'ai l'impression que je ne t'ai pas parlé depuis à peu près 18 ans.
C'était... Ouais, c'est vrai ça.
Ça fait... Ah, tu nous as manqué. Je suis content que tu sois de retour.
Et Alors, je ne vais pas dire que tu m'as manqué, Patrick. J'étais en vacances, donc...
Parce que tu étais en vacances. Mais... Oui, tu fais bien de préciser. En même temps, ce n'est pas exclusif. Hein. Ça se trouve, même si tu n'avais pas été en vacances, je ne t'aurais pas manqué non plus. Mais on ne saura pas. On va partir du principe que c'est pour ça. Christophe aussi nous a manqué. Bonjour Christophe, comment vas-tu ?
Hello, ça va très très bien. Ravi d'être là encore une fois. Et bonjour Marion, bonjour la chatroom aussi.
Tu as failli ne pas être là, mais tu es là en remplacement express de ton camarade
voilà,
Stéphane.
C'était deux fois à chaque fois. Mais oui, en fait j'étais avec Stéphane hier. Tu vois, on était au golf ensemble. Pour tout,
ah oui, d'accord, je vois le genre non, de mais tu vois le. Très bien, très bien.
Non, mais le rendez-vous tech, ça paye tellement bien qu'on est rentiers avec Stéphane tous les deux. Du coup, on passe nos lundis sur les greens au golf. Non, et puis et c'est là qu'il m'a dit qu'effectivement, il avait un empêchement pour aujourd'hui. Je lui ai dit, mais ça tombe très bien, je suis dispo.
Ouais, il m'a envoyé un mail, il m'a dit, oh, c'est les experts à Miami, sauf que c'est pas à Miami. Je suis appelé en urgence pour un problème de problème d'un système informatique que je dois réparer. Donc, il a pris sa mallette et il a pris, je sais pas, le train, l'avion. Et du coup, toi, tu es là. Mais est-ce qu'on n'y gagne pas au change ? Vous le saurez en écoutant cet épisode.
Yes.
il nous manque aussi. Mais du coup, ça sera qu'un plus grand plaisir de le retrouver la prochaine fois aussi. Un grand merci à Audrey Chaillet, qui est la patriote qui a rejoint l'équipe la semaine dernière, et à Franck Matignon et Rémi X, qui soutiennent au niveau producteur. Merci à vous tous. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous savez que c'est sur patreon.com/rdvtech. Très simple, très rapide, très beau. Et on peut enchaîner sur les infos importantes. Vous avez vu comme l'intro était plus rapide que d'habitude ? On est à combien là ? Je vais rallonger un petit peu, mais moins de 3 minutes. Il y a fort longtemps, il y a quoi ? Peut-être 10 ans, il y a eu plusieurs périodes du Rendez-vous Tech. Je me disais, allez, il faut 2-3 minutes maximum pour les intros. Et après, hop, on est lancé dans les sujets importants à traiter. Bon, depuis, il y a eu un petit peu plus de temps, mais là, j'y reviens, juste 3 minutes. Et du coup, on va parler de Reddit. On en parlait un petit peu la semaine dernière déjà, peut-être même beaucoup, mais la chose a pris de l'ampleur. Vous vous souvenez, vous savez ce qui se passe sur Reddit en ce moment ? Vous avez suivi ou pas ?
Ouais, c'est difficile de ne pas être au courant là.
Ouais, ça fait
le bruit que ça fait, oui.
Alors, petit rappel de l'épisode précédent, Reddit est en crise. Alors, Reddit, c'est marrant parce que c'est un site hyper important pour le net et j'ai l'impression que la plupart des gens savent un petit peu de quoi il s'agit, mais à moins d'être vraiment fan de l'Internet, de la culture Internet, peut-être qu'on ne va pas fréquenter ce site souvent. Bon, pour repréciser, Reddit, c'est un site qui est un agrégateur de liens. On peut donc poster différents liens et on peut voter sur ces liens pour les faire remonter dans une liste, ce qui permet d'avoir, en gros, les liens les plus intéressants du moment sur le net. Et il y a plein de sous-reddits sur des sujets spécifiques. On va avoir un sous-reddit musique, un sous-reddit photo rigolote, un sous-reddit Street Fighter, etc., etc. Donc, c'est un site qui est hyper important pour, en tant que site lui-même, mais également pour la recherche sur Internet, parce qu'on en parlait depuis quelques temps. Il y a beaucoup de gens qui font une recherche spécifique sur Google ou sur d'autres moteurs pour avoir les réponses Reddit, parce qu'à force d'avoir une optimisation sans fin SEO de tous les sites web, eh ben souvent on a des réponses qui sont, enfin des résultats de recherche qui sont pas super cohérents par rapport aux questions qu'on pose, et donc les gens rajoutent Reddit dans leurs questions, dans leur requête de recherche sur Google, pour avoir une réponse de Reddit qui est une réponse de vrais humains qui répondent à une question posée par des vrais humains. Et donc Reddit a une importance vraiment, peut-être même disproportionnée par rapport à la taille du site sur le net. Il y a 10 jours, le président de Reddit, qui est l'un de ses cofondateurs, a décidé qu'il allait modifier le fonctionnement des API et les faire payer un prix qui était inacceptable pour certains des développeurs, à vrai dire pour tous les développeurs de la communauté Reddit. Et la décision a provoqué une révolte de Reddit. En gros, c'est un petit peu plus que juste la question des API, mais c'est une question de direction dans laquelle il veut emmener le site. Alors lui dit, vous êtes gentil, mais Reddit n'a jamais fait d'argent. À un moment, il faut bien qu'on gagne de l'argent. Et le problème, c'est que les API sont devenues tellement chères que les développeurs d'app tierces ne peuvent pas vraiment continuer à faire fonctionner leurs apps parce que ça coûte trop cher pour accéder aux données de Reddit. À partir de là, des dizaines, des centaines, des milliers de sous-reddits qui sont gérés par leurs modérateurs ont décidé de fermer boutique. Alors, fermer boutique, pas complètement, mais ils ont décidé de rendre les subreddits privés. On est arrivé à un moment où on avait plus de 8000 subreddits qui étaient passés en privé, donc qui étaient inaccessibles. Beaucoup sont revenus depuis, mais souvent sont revenus soit en mode lecture seule, soit en mode... Vous avez vu le truc de John Oliver ou pas ?
C'est génial, je suis tombée sur son tweet, j'étais morte de rire.
Tu peux expliquer de quoi il s'agit ? Parce que c'est encore un des trucs de la mode d'Internet qui arrive souvent depuis Reddit et qui est hilarante et qui est une action presque sociale sous une forme particulière. Ouais.
Ce qui est rigolo, c'est que il y a eu des annonces. En gros, la plateforme Reddit essaye que les subreddits réouvrent soit de nouveaux publics et soit de nouveaux modérés. Et donc, ils ont utilisé soi-disant les conditions d'utilisation de la plateforme pour dire si vous souhaitez plus modérer, on va demander à la communauté du subreddit s'il y a au moins une personne qui veut modérer. Et on va trouver un moyen pour lui donner les droits de modérer et virer les modérateurs qui ne veulent plus modérer. Entre guillemets,
un passage en force de la direction de Reddit qui disait on vire les modérateurs qui veulent plus faire leur boulot, qui sont bénévoles, évidemment, tous les modérateurs sont bénévoles, et on va en trouver qui veulent le faire. Et là.
Et du coup, pour contrer ça, en pied de nez à cette nouvelle politique ou cette nouvelle menace, on va dire, qui émane de la plateforme, certains subreddits ont réouvert le subreddit et ont fait un sondage où ils ont demandé à leur communauté est-ce que vous voulez qu'on redémarre les posts comme avant, c'est-à-dire avec tout type de contenu, ou est-ce que vous voulez que l'on poste uniquement des photos sexy de John Oliver ou cute de John Oliver, John Oliver étant un animateur célèbre d'un talk show américain, The Last Week Tonight, qui est hilarant, il a énormément d'humour, c'est un anglais, donc c'est un humour anglais assez particulier, et qui est très très bon pour comprendre les nouvelles technologies, l'actualité, la politique, etc. Il débriefe souvent de ça. Et donc du coup, c'est devenu, ces subreddits, il y en a eu deux, c'était GIF et PIX, donc les images animées, les GIF, et les pictures, donc les images statiques. Ces deux subreddits-là ont tous les deux fait ce sondage et la réponse unanime, ça a été John Oliver. Et donc depuis, il n'y a uniquement que des posts sur John Oliver. Et du coup, l'animateur, comme il sait surfer sur ce genre d'actualité, il a tweeté en félicitant les communautés Reddit en disant « excellent work ». Et il a carrément fait un thread où il a partagé proactivement les pires photos de lui directement sur Twitter, quoi. C'est excellent.
Et du coup, on se retrouve avec, comme souvent sur ce type de forum, une situation où ils ont fait un pied de nez à la direction en réouvrant le truc, en court-circuitant le sondage et en le pourrissant, on ne peut pas dire le pourrissant, mais en le gardant non fonctionnel mais marrant quand même. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de Reddit qui ne postent que des contenus liés à John Oliver.
Alors, donc, c'est des communautés quand même imposantes, hein, parce qu'il y en a une, elle fait 22 000, elle a 22 000 membres, l'autre 24 000, et il y a même le subreddit AO qui postait des images cute.
C'est un million,
c'est des millions.
Des millions, ouais. Oui, tout à fait. Et même elle a également suivi le mouvement quand même, donc c'est quand même impressionnant.
Et donc, on est effectivement dans cette situation où on ne sait pas très bien où ça va aller, mais ça n'a pas l'air de s'arranger complètement. Est-ce que ça impacte véritablement à ce stade la possibilité pour Reddit d'opérer? Possiblement, certainement au moins en partie. On a d'ailleurs quelques chiffres qui sont estimés par des entreprises d'analyse, SimilarWeb notamment, qui estiment qu'on est passé de 57 millions d'utilisateurs sur Reddit la veille du blackout à 52 millions. Alors, c'est une chute quand même substantielle, hein, presque 10%. Il y a aussi la quantité de temps passé sur le site qui a chuté. Mais c'est pas que le site peut pas opérer. Par contre, on voit dans le même temps la montée de...
Est-ce que c'est les gens qui bloquent ça, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus le contenu que les gens attendent, qu'il y a moins de gens qui y vont dessus? C'est surtout ça.
Ah bah, quand tu arrives sur le site et que les subreddits que tu avais l'habitude de visiter sont complètement fermés, ou... alors, c'était avant l'histoire de John Oliver, mais ne présente que des photos ou des vidéos ou des musiques en lien avec John Oliver. Bon, c'est marrant deux minutes, mais c'est pas pour s'activer. Ouais,
Mais c'est ça, en fait. C'est là où ça met vraiment le doigt sur l'intérêt et l'usage de Reddit. C'est sur le contenu, en fait. La vraie question de fond, elle est là-dessus. Elle est sur le contenu et pas forcément le moyen d'y accéder. C'est là où moi, je vois l'intérêt. Enfin, si on veut ramener le débat sur le problème des API et de l'accès au contenu, c'est ça. C'est est-ce que Reddit veut maîtriser de bout en bout son contenu, ou est-ce qu'il veut le monétiser par rapport à jusqu'à l'application qu'il veut mettre en avant, ou est-ce que l'API qui permet du coup de l'accès à ce contenu par l'intermédiaire du coup d'éléments de programmation, puisque c'est essentiellement pour le développeur tiers qu'on utilise ces API-là, c'est un moyen de le monétiser, et c'est là où à mon avis se tire une balle dans le pied, c'est que la force de frappe de Reddit, elle est sur le contenu qui est rédigé derrière. Bah, et pas forcément sur le moyen d'y accéder, c'est-à-dire que tu sois sur une appli, que tu sois sur un navigateur web, etc. Peu importe, en la rigueur, les gens, les utilisateurs, ils s'en foutent de ça.
Mais c'est tout le problème. C'est que les applis tierces qui ne payaient pas ou qui ne payaient pas l'accès aux API et donc l'accès au contenu, eh ben, elles ne faisaient pas d'argent pour Reddit. Donc, c'était un moyen pour les utilisateurs d'accéder au contenu de Reddit sans générer d'argent du tout pour Reddit. Peut-être qu'ils auraient pu faire des tarifs d'API plus raisonnables, mais ils ont choisi de le faire tellement cher qu'en fait, ils court-circuitent, ils évacuent les applications tierces.
Alors là, c'est le développeur qui va parler un peu, mais pour moi, c'est une mauvaise approche de Reddit. C'est-à-dire que ça veut dire que la monétisation, tu l'as fait par-dessus tes API que tu utilises directement. Donc forcément, tu vas dépendre de comment tu packages le contenu arrière. Donc si c'est l'application tierce, si c'est le site web, oui. Mais tu peux très bien imaginer que tu monétises à l'intérieur de tes API. C'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir au sein des API, bon, les API, ça permet d'accéder du coup au contenu de Reddit, mais de manière programmatique. Donc tu n'as pas encore la mise en forme, tu n'as pas encore tout ça, mais tu peux très bien imaginer qu'au sein de ces API, du coup, la monétisation, tu la fasses apparaître avec des posts sponsorisés qui sont retournés au sein des API directement, auquel cas tu n'as pas besoin de monétiser l'accès à l'API directement. Le contenu qui t'est envoyé par l'API, Reddit derrière, va maîtriser au sein du contenu ce qui peut être monétisé ou pas, ce qui est sponsorisé ou pas, et du coup le finance comme ça. C'est un autre moyen de le faire, et je pense que ça aurait été beaucoup plus judicieux de leur part de le faire comme ça.
Bah, on a une déclaration du président de Reddit actuel qui disait « Moi, je suis très admiratif de la manière dont Elon Musk, désolé, il est partout, hein, dont Elon Musk gère Twitter. Le fait de réduire la voilure comme il l'a fait, c'est intelligent. Le fait de faire payer les API, évidemment, c'est venu, l'idée est venue de Twitter avec Elon Musk. Ça pose un vrai problème de monétisation du contenu de toutes ces plateformes, hein, qui vivent du contenu créé par les utilisateurs, du fait que Reddit n'a jamais été dans le rouge, pardon, dans le noir justement, n'a jamais généré de profit. Bon, il y a le propriétaire de Reddit, Condé Nast, qui doit commencer à titiller un petit peu aussi, mais la manière de monétiser est clairement un petit peu brutale, et il n'y a pas de doute sur le fait qu'il aurait pu essayer de s'y prendre autrement. Et ça m'amène à une autre nouvelle, enfin une autre tendance qu'on voit, c'est la popularité de Kbin, Lemmy et d'autres applications de ce type. Vous connaissez ou pas Kbin et Lemmy? Ça vous dit
pas
quelque chose? Pas du tout. Alors, Kbin et Lemmy, c'est comme on le voit souvent quand ces applications ou ces services sont en crise, on voit émerger des alternatives, et souvent des alternatives open source, décentralisées, etc., etc. Et c'est le cas...
Il y a eu avec Mastodon pour Twitter, en fait.
Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Et ça va même, la comparaison va même plus loin, puisque Kbin et Lemmy sont des alternatives à Reddit, des agrégateurs de liens dans le Fediverse. Pas Fediverse, mais le Fediverse, c'est l'univers des applications et des services fédérés. On fera peut-être d'ailleurs un petit after-show pour les Patriotes où j'explique exactement ce que c'est que le Fediverse et les applications décentralisées de ce type et pourquoi elles sont intéressantes. On ne va pas refaire l'explication ici, mais je la ferai peut-être en after-show dans cet épisode. Donc, les Patriotes, vous aurez ce petit bonus en fin d'épisode. Mais en gros, c'est une alternative libre, ouverte, etc. Et elle commence à gagner un petit peu en popularité. Le Fediverse existe depuis longtemps, mais avec Mastodon, il y a des, enfin on le sait, hein, les fans de Mastodon vous ont certainement déjà dit à tous, mais venez sur Mastodon, c'est facile, c'est comme Twitter, mais c'est mieux, c'est plus libre, etc. Bon bah là, Lemmy par exemple a vu des dizaines de milliers, alors par rapport aux millions d'utilisateurs de Reddit, c'est pas grand-chose, mais ça peut se faire par vague, des dizaines de milliers de nouveaux comptes créés, et bah, ça fonctionne un petit peu comme Reddit, quoi, sauf que c'est open source et fédéré, donc chacun peut avoir son instance Lemmy ou son instance Kbin, et ça fait partie du Fediverse dont fait partie Mastodon. Du coup, la question qui se pose à chaque fois... Et je me retourne vers le développeur qui est certainement plus proche de ces univers. Est-ce que tu crois que ça peut prendre ? On a vu que Mastodon, alors c'est pas que le soufflet est complètement retombé, mais clairement ça n'a pas remplacé Twitter. Est-ce que tu crois que ça peut prendre un Lemmy, un Kbin, les trucs comme ça ? Ou que c'est un effet de mode là parce que Reddit va pas bien, mais ça va finir, comme le croit d'ailleurs le président, ça va finir par se tasser comme ça se tasse toujours, quoi.
Ouais, alors je pense que c'est important qu'il y ait ce genre d'alternative. Je pense que c'est très arrivé par la communauté open source. Ça existait avant, c'est juste que ça a été propulsé sur le devant de la scène du fait de ce qui se passe sur Reddit en ce moment. Pour moi, ça va rester très communautariste au sens des les gens qui sont plutôt communauté open source dans le monde de dev un peu axé tech. Et le problème de ce genre de plateforme-là, c'est que c'est l'accessibilité pour le grand public. C'est que même si... fondamentalement les accès sont très proches de ce que tu peux avoir sur Reddit ou sur Twitter, c'est quand même moins connu, c'est quand même moins répandu et les gens vont quand même, c'est moins bien référencé également sur le web en général, donc forcément tu auras quand même moins de monde qui va arriver dessus et tu vas rester sur des communautés de gens qui sont plutôt enthousiastes tech, qui suivent un petit peu plus ça, qui vont aller dessus soit par militantisme, soit parce que ils ont envie de tester de nouvelles choses, mais j'ai du mal à croire que ça perce au grand public, comme on pourrait l'avoir sur du Reddit. Enfin, très clairement, avant que ça arrive à ce niveau-là, j'y crois pas. Il y a plein d'avantages, parce qu'effectivement, le côté open source, ça parle énormément. Le côté, tu reviens, on va dire, aux origines du web, c'est-à-dire que c'est décentralisé, c'est la communauté qui possède tout le truc, quelque part. Tu peux contribuer à la plateforme sur le code également, et pas que sur le contenu. Donc, ça revient à l'essence du web. C'est aussi un retour peut-être aux origines derrière. Mais aujourd'hui... t'arrives pas à ce niveau-là de référencement et de popularité que tu pourras avoir sur ces plateformes. Mastodon, on le voit très bien. C'est-à-dire que ça, il y a eu une vague et puis elle a redescendu derrière. Ça a fait épuite. Et je pense que ça a fait
pareil pour ces plateformes-là. Mais parce que le grand public s'en fout de la notion d'open source. Enfin, il faut être réaliste. Hein. C'est des enjeux et des problématiques qui tiennent à cœur de beaucoup de personnes et c'est important. Enfin, c'est moi je trouve ça passionnant, mais ça va être niche. Les gens, quand ils utilisent un service, ils vont pas se poser la question, enfin les gens, quand je dis le grand public, hein, va pas se poser la question de est-ce que c'est open source ou pas open source. Et donc du coup, ils vont juste regarder quel est l'outil le plus facile d'accès, sur lequel ils tombent, celui qui est le mieux référencé par Google. Voilà. Et donc ici, c'est Reddit. Ouais. Parce qu'en fait, Reddit, c'est certes, il va y avoir des communautés et des fans tech, des niches tech, mais en fait, c'est bien plus que ça. ça va être des niches sur n'importe quel sujet. Mmh. C'est ça qui est quand même merveilleux. Moi, j'ai trouvé, à un moment donné, je cherchais la meilleure édition du Seigneur des Anneaux en livre, en anglais, et en fait, j'ai trouvé une communauté sur Reddit où les gens comparaient, prenaient des photos, disaient là, il y a des typos, là, il y a des problèmes d'impression, la qualité du papier est trop bien, et donc, du coup, ça m'a permis de faire un joli cadeau, mais tu peux trouver des niches sur n'importe quel sujet, quoi. Mmh. C'est ça qui est assez fou.
On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une question de contenu aussi. Et quand on a, je ne sais pas combien ils ont d'utilisateurs Reddit, mais je vais dire lancer un chiffre au hasard, 100 millions d'utilisateurs mensuels contre peut-être 15 000 sur l'EMI, c'est évidemment difficile de faire une vraie concurrence. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas grossir. Et l'importance de l'open source et de la décentralisation, qui est le cœur du Fediverse, sont... Il est impossible de les sous-estimer, de les surestimer, au contraire. Mais oui, c'est disons que si ces alternatives, que ce soit PixelFed, l'EMI, Mastodon, devaient remplacer les alternatives, enfin les services qu'ils copient, il faudra encore beaucoup de croissance avant que ça soit possible. J'ajoute aussi
juste beaucoup de croissance et aussi une facilité d'utilisation égale. Oui. Ouais. Parce qu'en on me dit souvent « Ah ouais, non, Mastodon, c'est aussi facile. »
C'est marrant parce que, à ce propos, John, qui est l'une des sources, c'est un blogueur développeur qui a parlé justement de l'EMI en analysant la croissance. L'un des trucs qu'il disait quelques jours plus tôt, c'était « Arrêtez de dire aux gens que Mastodon, c'est facile. » C'est pas facile, Mastodon. C'est pas facile, ça peut continuer à croître. Mais ce n'est pas facile. Et pour l'EMI, il ne faut pas qu'on dise aux gens que c'est facile. Il faut apprendre à s'inscrire, à l'utiliser. Mais si tu dis aux gens que c'est facile, tu vas leur donner l'impression qu'ils sont débiles. En plus, ce n'est pas facile. En plus, ça les énerve. Donc, il faut arrêter ça, quoi.
Bon. Déjà, avec Twitter, ce n'est pas facile. Moi, la vraie question que je pose, et je pense que ça va parler à Marion aussi, c'est les gens, en fait, derrière. C'est les utilisateurs et les gens qui consomment ce genre de contenu qui font la popularité de ces plateformes. Donc, il y a deux choses derrière ça. Il y a le contenu auquel tu vas pouvoir accéder ou pas. Donc, est-ce qu'il est sur une plateforme ou pas? Aujourd'hui, clairement, il est sur Reddit. Il n'est pas sur les autres encore. Et si on revient sur la problématique des API, c'est aussi les applications, c'est-à-dire le moyen de le consommer. C'est-à-dire jusqu'à présent, moi, je repense à Twitter. C'est-à-dire que Twitter, quand ils ont fermé les API, avant, enfin, moi, ça m'a frustré à titre personnel parce que j'utilisais des applis tierces qui avaient des fonctionnalités que l'appli Twitter officielle n'avait pas, et pour lesquelles, en fait, il n'y avait aucune autre réponse, une autre alternative. C'est-à-dire qu'à la rigueur, je me fichais du fait qu'il y ait du contenu sponsorisé ou pas. Enfin, ce n'était pas encore à ce point-là, mais il y avait des fonctions dans les applis tierces que j'utilisais, qui étaient utiles pour moi au quotidien, que l'appli Twitter ne proposait pas. Et ça, du coup, c'est ce qui faisait la popularité des applis tierces. C'est-à-dire que tu avais des applis tierces, parce que, pas uniquement parce que tu as des API gratuites et qu'il y avait des développeurs qui s'amusaient à le faire, parce qu'ils proposaient derrière des fonctions en plus que la plateforme ne proposait pas, qui ciblait des gens, des utilisateurs, et qui répondait à un vrai besoin. Donc c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut se poser ce genre de questions, et pas que juste uniquement la monétisation.
Et puis un autre élément, parce qu'on comparait Reddit à Twitter, en fait, la comparaison, elle est quand même limitée. Twitter a son équipe de modération, même si largement réduite, merci Elon Musk, même si largement réduite aujourd'hui, mais elle a une équipe de modération qu'elle rémunère. Reddit, l'ADN, c'est... c'est que c'est du volontariat, c'est encore une fois la communauté ici qui donne ce service essentiel de modération. Donc en fait, il y a quand même pas mal de petites choses très maladroites, c'est pas si petit que ça, il y a pas mal de choses maladroites que la plateforme Reddit ici a fait en tournant le dos, en disant on va appliquer bêtement, parce que honnêtement c'est un peu ce qui s'est passé, on va appliquer bêtement la stratégie d'Elon Musk sans réfléchir à quel besoin notre produit répond, qui l'adresse, qui fait la valeur, qui produit la valeur du service, et du coup, sans impliquer les parties prenantes aussi. Et ça, c'est quand même dramatique. Genre, les mecs, ils ne se sont même pas posé la question de s'ils allaient faire payer l'accès à l'API à des applications tierces d'accessibilité, quand même. Enfin, et après, ils se sont dit, oui, rétro-pédalage, oui, finalement, bien sûr, c'est gratuit.
Mais c'est, tu mets le doigt sur un truc hyper important, effectivement, parce que Twitter, bon, Elon Musk, il fait ce qu'il veut avec son API, avec ses trucs, il est propriétaire de la boîte, et toutes les parties importantes de fonctionnement de la boîte, c'est lui qui a la main dessus. Reddit, c'est méga communautaire, et les modérateurs, c'est eux qui gèrent le truc, c'est des managers, il y en a des milliers, des managers du site. faut pas te les mettre à dos, quoi, parce que bon, sinon, voilà ce qui se passe. Bah écoutez, on continuera à suivre tout ça dans les semaines à venir. Et encore une fois, il est important de comprendre à quel point Reddit est important sur Internet, même si on ne s'en rend pas forcément énormément compte quand on ne l'utilise pas directement au quotidien. Passons un petit peu à l'Union européenne et ce qu'ils veulent faire en 2027. Une nouvelle dont j'ai l'impression qu'elle est un petit peu passée inaperçue. Puis on m'a dit non, mais sur Frandroid, nous, c'était la nouvelle la plus lue de ces dernières semaines. Bon, c'est possible. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Union européenne a fait passer une loi qui est encore en cours d'élaboration, mais qui, entre autres choses, qui concerne les batteries. Qui concerne les batteries de gros véhicules, etc., mais aussi les batteries de petits appareils comme les téléphones, et qui voudrait imposer en 2027 aux constructeurs de téléphones de construire leur téléphone en incluant une facilité de remplacement par les utilisateurs de leur batterie. C'est-à-dire, les batteries ne seraient plus collées, on pourrait ouvrir le compartiment à batterie au moins facilement, et on pourrait remplacer les batteries si on veut plus de durée de vie ou simplement notre batterie commence à faiblir, on veut la remplacer et donner une nouvelle vie à notre téléphone. C'est évidemment dans le cadre d'une économie circulaire, d'utilisation longue durée, etc. En lisant ces infos, je me suis dit, mais formidable, c'est super. Bon, ok, peut-être que les téléphones devront être un millimètre plus épais pour avoir les parties avec les vis, les machins, ok. Mais je suis prêt à sacrifier un millimètre si on peut revenir à, pas par plaisir hein, évidemment, qu'un téléphone dont la batterie n'est pas remplaçable, qui est super collé, tout est comme il faut. Oula, je tape mon micro. Bah, il est plus fin, il est plus cool, il est plus beau, c'est vrai. Mais disons qu'il y a d'autres urgences en ce moment. Et donc, moi, je me disais, ok, super. Et on en a parlé un petit peu sur le Discord. Et j'avoue que les gens m'ont un petit peu mis le doute. Parce qu'il y avait des arguments plutôt convaincants sur le fait que, eh ben, si on doit imposer à tous les constructeurs d'avoir des batteries facilement remplaçables, d'une part, bah, ça va faire grossir les téléphones, ils seront peut-être plus aussi étanches. Ensuite, ça veut dire qu'on peut, quand on se fait voler son téléphone, enlever la batterie et donc il n'y a plus de localisation ou de choses comme ça. Et puis, surtout, franchement, aujourd'hui, ce n'est pas difficile et ce n'est pas cher de se faire remplacer sa batterie, même sur un téléphone dans lequel ce n'est pas remplaçable. Oui, il faut aller dans un magasin, mais ça coûte 50, 60, 90 euros sur un téléphone à 1000 euros ou même à 600, 700 euros. Au bout de 3 ans, on met ce prix-là et on change la batterie facilement. Ce n'est pas un si gros problème, en fait. Et du coup, je ne sais plus quoi penser. Donc, je me retourne vers vous, Marion et Christophe. Est-ce que c'est une bonne idée d'imposer le changement facile de batterie par les utilisateurs aux constructeurs ou pas ? Je ne sais pas, on va poser la question à Marion encore. Fausse bonne idée ou vraie bonne idée ?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, je suis pas une spécialiste hein, du sujet, donc attention. N'hésitez pas à dire dans la chatroom ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on a atteint un stade de maturité technologique en concernant les smartphones où se dire légèrement plus épais pour pouvoir plus facilement sortir la batterie, on n'est plus à ça près. Et en fait, à un moment donné, il faut aussi voir en termes coût environnemental, etc. En fait, il y en a, ils vont juste pas faire l'effort d'aller se rendre en magasin. Enfin, c'est encore le chemin de la moindre résistance aussi, quoi. Ouais. Ils vont juste pas faire l'effort d'aller en magasin. Par contre, de pouvoir facilement commander en ligne, la recevoir, ouvrir son smartphone et la changer, bah ça potentiellement oui. Donc en fait, moi je suis assez pour faciliter quand même la réparabilité des appareils. Parce que voilà, si tu compares avec Darty et son système de réparation d'électroménager, ben c'est pénible.
Ouais, faut y aller, faut y aller. Il faut amener l'appareil, on ne va pas l'avoir pendant X temps, même si c'est 2 heures. Bon, bah, faut trouver les... Alors que là, tu achètes une batterie. Alors, certaines personnes disaient oui, mais ça va être des batteries bon marché, fabriquées en Chine, pourries, et puis on va les jeter à la poubelle, les autres, machin. Bon, peut-être effectivement que ça peut poser ce genre de problème, mais c'est certainement plus facile que d'aller dans un magasin pour le faire remplacer.
Ouais, et puis les marques suivent. Je veux dire, ouais. Apple, Google, Samsung, ils annoncent tous des programmes d'auto-réparation, enfin, pas d'auto-réparation, de self-reparation, de réparation comment dire, autonome, on va dire. Enfin, je ne sais pas comment le dire.
Le font eux-mêmes, ouais.
Voilà, où on le fait soi-même. Et donc, ils vont donner accès à ces composants-là. Donc, ça sera une batterie Samsung, potentiellement.
Ouais.
Donc, je trouve que c'est une peur qui n'est pas hyper fondée là-dessus. Ouais. Évidemment, il y aura des batteries moins chères. Mais je pense que quand même, entre remplacer un smartphone complet versus remplacer la batterie, on y gagne. Mais encore une fois, je suis pas expert du sujet.
Christophe, t'en penses quoi, toi ?
Ah, moi, je pense que c'est une très, très bonne initiative. Au contraire, moi, je suis complètement pour. Et les arguments sur, qui justifiaient le fait de ne pas le faire, ça se démontre relativement facilement. Le fait que ça enlève la géolocalisation, de toute façon, aujourd'hui, même si tu n'enlèves pas la batterie, le téléphone, tu peux l'éteindre. Tu forces l'extinction et
ça coupe la géoloc quand même. La géoloc sur iPhone, en tout cas, elle marche quand même. Ah. Par contre, tu peux mettre ton téléphone dans un sac...
Dans du papier alu, voilà blindé.
Exactement, et là, ça règle le problème.
L'urgence, elle est plutôt côté environnemental et la durée de vie des smartphones aujourd'hui, technologiquement en fait, est limitée par les batteries, très clairement. Tu peux garder des téléphones aujourd'hui extrêmement longtemps. En plus, les mises à jour constructeurs se font de mieux en mieux sur la plupart des smartphones, même dans le monde Android. Et aujourd'hui, très clairement, si tu ne changes pas la batterie au bout de 3-4 ans, ouais, effectivement, tu vas avoir une vraie dégradation de l'expérience dans l'utilisation de ton smartphone, alors que très fondamentalement, le reste de la plateforme suit encore. C'est-à-dire que tu n'as aucune limitation pour utiliser les applications. Les mises à jour de l'OS se font encore. Et encore, aujourd'hui, même si tu n'as pas toutes les mises à jour de l'OS, tu as quand même mises à jour de sécurité, ils sont maintenus derrière. Tu n'as pas les dernières fonctions, mais ça peut encore te servir pendant quelques temps. Donc pour moi, pour la durée de vie, c'est hyper important. Le fait que tu puisses le faire toi-même par rapport aux boutiques, encore une fois, je ne saurais pas te dire si tout le monde va pouvoir le faire chez soi, mais tu as toujours quelqu'un dans ta famille, je pense, qui sera suffisamment à même de fait pour pouvoir le faire pour toi. Tu vois, même si t'as pas.
Non, mais a priori.
Et encore une fois, t'as le choix.
Et Guillaume mentionne dans le chat mentionne quelque chose de très intéressant. À la campagne, il y a pas de réparateur informatique partout.
Mmh. Ouais.
Nous, on a le confort des grandes villes et encore pas ouais. Patrick.
Non, mais c'est vrai que ça compte. Et puis, l'idée, c'est que ça soit facilement remplaçable par l'utilisateur lui-même. C'est pas juste que ça peut être remplacé, c'est déjà le cas, mais facilement remplaçable par l'utilisateur lui-même, comme c'était le cas avant les téléphones tout collés, les premiers iPhones. Et du coup, oui, peut-être que ça va pas devenir tout le monde, peut-être qu'il y aura peut-être que quelques soucis ici et là, mais à mon avis, il est difficile de dire que ça va pas augmenter le nombre de personnes qui gardent leur téléphone plus longtemps juste en changeant la batterie. C'est évident que ça va avoir un impact. Il y a d'ailleurs une autre loi, elle fait beaucoup de choses, l'Union européenne, et plutôt des choses pas mal. Il y a une autre loi qui qui va changer l'étiquetage, je ne retrouve pas mon lien, qui va changer l'étiquetage sur les smartphones pour avoir indiqué qui va avoir indiqué différentes informations sur la nature de l'appareil, l'efficacité de la batterie, etc., etc. Et du coup, moi, il y a un truc qui me désole, c'est qu'il n'inclut pas, voilà, il y a l'efficacité énergétique du truc, la longévité de la batterie, le degré de réparabilité, etc. Il y a un truc qui me désole, c'est qu'il n'inclut pas la promesse de durée de mise à jour des constructeurs, parce que ça, c'est le truc avec la batterie vraiment, vraiment essentiel. L'efficacité énergétique, oui, pour un smartphone, bon, parce qu'ils essayent d'être le plus efficace possible de toute façon. L'imperméabilité à l'eau et aux poussières, c'est bien, mais c'est pas ça qui... Il faudrait la durée de vie des batteries, ok, le fait qu'on puisse les changer, et surtout la durée des mises à jour de sécurité du constructeur. Ça, c'est les deux choses essentielles.
Ah, mises à jour évolutives et les mises à jour de correction, les deux cercles. Combien de temps tu vas pouvoir bénéficier... Voilà, combien de temps tu vas pouvoir bénéficier des nouvelles fonctionnalités et combien de temps tu vas pouvoir être garanti que ton smartphone reste sécurisé, on va dire, avec les mises à jour de sécurité qui vont bien. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est totalement pas transparent. C'est-à-dire qu'il faut creuser ça, les différentes marques
ont différentes,
ça varie tellement, surtout dans le monde Android. Donc, il faut vraiment faire attention à ça.
Ouais. Alors, c'est hyper important, c'est ce qui va driver la durée. Il y a d'autres lois qui sont en cours. Peut-être que ça fera partie de ces autres lois. Je crois que certains textes évoquaient 5 ans obligatoires, ce qui me paraît être aujourd'hui un minimum, alors qu'il y a genre quelques années, on se dit « Oh, ils font 3 ans, c'est super bien, bravo !» 3 ans de mise à jour. Donc voilà pour l'Union européenne. Il y a d'autres choses qui se passent au niveau de l'Union européenne. Il semblerait que pour les services de communication et financiers, c'est pas qu'il semblerait, c'est confirmé, l'Union européenne dit définitivement au revoir à Huawei et ZTE. Et pour des questions de sécurité, évidemment, et ils encouragent les États membres à faire de même. Il y a une vraie, vraie préoccupation là-dessus, et même l'Union européenne s'y met. Pour les services spécifiquement de communication et financiers, ce qui n'est pas rien, mais on peut comprendre qu'on veuille être à peu près certain que tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas d'ingérence potentielle pour ce type de services. Ah oui, ils pourraient lancer une attaque contre Google aussi. C'est énorme, c'est pas encore tout à fait acté, mais il serait possible que Google soit, qu'on exige de Google
légale,
qu'il se sépare.
Une action en justice.
Oui, une action en justice, pardon, bien sûr, c'est, je ne l'ai pas dit. Que Google doive se séparer de son activité publicité. Évidemment, c'est l'activité la plus importante de très très loin, majoritaire de très très loin chez Google. Donc, bon, on verra comment ça se passe, c'est encore qu'au tout début. Dernier gros sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est la présence de Elon Musk à Vivatech. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne vais pas mettre la vidéo YouTube en entier parce que je suis sûr que ça va être, surveillé par les ayants droit, mais Elon Musk était à Vivatech et j'ai regardé son intervention, je ne sais pas si vous l'êtes tapé. En entier, moi je l'ai fait, et je dois dire que j'étais un peu, comment dire, en y allant, j'avais j'étais à Vivatech, effectivement, j'ai fait une émission avec Melinda d'Avansoulas, son émission de jeux vidéo multijoueur qui était très sympa, leur studio était à Vivatech, mais donc je suis passé en coup de vent, j'ai pas été voir Elon Musk à Vivatech même, non merci, ça va, mais j'ai regardé du coup la vidéo ensuite, et en y allant j'étais un petit peu irrité par avance d'Elon Musk, parce que avec toutes les affaires Twitter, toutes les affaires politiques, etc., je dois dire que son intervention, qui était ultra consensuelle, hein, évidemment ultra consensuel. Je mettrai le lien vers vous pouvez la trouver facilement, mais je mettrai le lien vers la vidéo dans la newsletter, donc vous pouvez aller la retrouver là-bas et vous abonner à la newsletter dans les notes de l'émission. Mais elle était ultra consensuelle, il n'y a pas eu de questions difficiles ou très 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 peu, il a répondu autour et voilà. Mais il faut avouer, et c'est un bon rappel, qu'il était quand même extrêmement différent du troll qu'on connaît sur Twitter. Je veux dire, c'était un mec normal qui avait des réponses. Alors, il est très, il bégaye, il est très comme il est, quoi. Mais qui avait des réponses même parfois intéressantes sur ce qu'il fait, pourquoi il le fait, la raison pour laquelle il veut faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, pourquoi il est inquiété par l'IA, pourquoi, etc. Et ça, c'était quand même relativement intéressant. C'était un bon rappel que les gens ne sont pas ce qu'ils sont sur Twitter, même Elon Musk. Maintenant, à côté de ça, comme je le disais, la discussion était ultra consensuelle. Il a fait une interview ensuite sur France 2 qui, visiblement, était ultra consensuelle aussi. Il n'y avait pas de questions très méchantes. Mais au-delà de ça, et c'est là que je vais vous poser des questions, j'ai quand même senti une sorte d'engouement, d'adoration pour Elon Musk, qui me semble dépasser l'adoration qu'on peut avoir pour des grands industriels de la tech qu'on a pu voir par le passé. Évidemment, le premier exemple qu'on donnera, c'est celui de Steve Jobs, qui était presque un gourou de secte. Mais là, il y avait même dans cette catégorie de gourou de la tech et d'adoration déraisonnable, là, on était dans une admiration qui était plus que sans bornes, quoi. C'était des gens qui étaient... on avait l'impression de voir les Beatles, quoi. C'était des stars de la musique ou des...
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'était plus...
Et ça me gêne, quoi.
T'es plus sur le stade de gourou. C'est-à-dire que le gourou, là, t'es sur... il est idolâtré, carrément.
Ouais, c'est ça.
La question, c'était...
Le terme religieux est bon. C'est de l'idolâtrerie.
Les gens sont en transe devant, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il est passé à un autre stade que gourou. À la rigueur, tu vois, même au-delà de Steve Jobs, oui, Steve Jobs avait ce côté gourou de la tech, mais parce que enfin, il a incarné aussi ça, il drivait beaucoup de choses, mais sans le côté quand même ultra controversé qu'on peut avoir chez Elon Musk. Enfin, et on peut pas le nier aujourd'hui quand même, même si il avait des avis très tranchés, Steve Jobs. Enfin, je vais pas faire que la comparaison entre Steve Jobs et Elon Musk. Ce que je veux dire, c'est que Elon Musk quand même, il a un autre stade de ça. On peut pas juste comparer là-dessus. Et là, très clairement, enfin, les gens sont tout l'esprit critique que tu peux avoir sur ce qu'il peut prendre comme décision sans réfléchir. Enfin, les gens ne se posent même plus la question. C'est amen. C'est ouais. Voilà. Alors qu'il y a quand même des choses très importantes de fond sur pour avoir des vrais sujets de fond sur lesquels il pourrait être intéressant de le questionner, qui sont complètement balayés. Et ça, c'est dommage. Ouais. C'est très clairement dommage. Surtout sur une audience comme ça à Vivatech, où tu es quand même dans le monde tech, entrepreneur, etc. Tu peux avoir des vraies questions de fond sur son parcours, sur l'entrepreneuriat en général, plutôt que sur ça y est, nouvelle annonce, ça y est, Mars, SpaceX, tout ça.
C'était vraiment, enfin, je ne sais plus pourquoi je disais ça il y a quelques temps dans une autre émission, mais là, c'est un langage que je n'utilise pas souvent, et c'est normal qu'on défère à la personne qui est venue sur ta scène, tu vois, parce qu'il prend de son temps et il n'est pas obligé de venir. Donc. Mais on était à un niveau qui était un petit peu comme, excusez-moi de la vulgarité, mais c'était vraiment susboule, quoi. C'était alors vous êtes un entrepreneur incroyable. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est vrai, il est un entrepreneur incroyable, etc. Mais même si on met de côté les questions politiques clivantes, on pourrait lui poser des questions intéressantes sur la manière dont il va gérer le réseau social Twitter, par exemple, sur la modération. Alors, on lui dit, mais alors, comment vous gérez? Et lui, il dit un truc qui n'est pas faux, qui est OK, mais moi, ce que je veux, c'est rester, maximiser la liberté de parole, sa fameuse liberté de parole, dans le cadre légal. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on interdise de dire quelque chose sur Twitter, eh ben, il faut faire changer les lois pour que la loi nous impose de ne pas le dire. C'est intéressant ce qu'il dit. Pourquoi ? Ok, est-ce que les réseaux sociaux doivent aller plus loin que la loi ? Mais en face, il y a un follow-up à faire, il y a une question à dire ensuite, c'est que au hasard, là, c'est juste le premier truc qui me vient, parce que cette question a effectivement été posée, il a répondu de manière intéressante. Je ne veux pas aller au-delà de la loi. Et la question qui vient forcément, quand on connaît un petit peu l'histoire des réseaux sociaux de ces 10 dernières années, c'est « d'accord, mais on n'a pas un juge derrière chaque tweet, donc à un moment, forcément, il va falloir que vous décidiez si un contenu est en accord avec la loi ou pas ». Donc, c'est juste déplacer la question un petit peu ailleurs. Ou alors, est-ce que votre réponse, c'est que jusqu'à ce qu'un juge ait décidé qu'un tweet est conforme ou non à la loi, vous allez le laisser sans le modérer ? Évidemment que non. Et donc, il y a des trucs à creuser. Mais on était dans un contexte où vraiment, c'était « Ah, OK, il a répondu, question juste ou pas ?» Et encore une fois, bon, c'était un grand show, mais c'est Vivatech. C'est pas un média généraliste, on est en plein dans la tech, donc ces questions sont importantes. Donc cette ambiance, d'une part, m'a gêné, et puis l'autre ambiance, c'était les gens qui étaient en transe devant, et on va au-delà de ce qu'on connaissait avec Steve Jobs, je pense qu'on peut en parler un petit peu plus. On va au-delà, quoi. Steve Jobs, c'était un type de la tech qui fait des innovations, et on préfère son produit aux autres, et on adore le voir, machin, oui, mais on n'était pas devant une figure religieuse. Enfin, c'est marrant parce que oui, si, on était un petit peu pour certains dans une sorte de religion Apple, mais c'était pas comme ça. C'était pas l'idolâtrerie. Tu veux ajouter quelque chose?
Et les gens étaient quand même intéressés pour Steve Jobs, étaient intéressés par ce qu'Apple avait à présenter et par le discours de Steve Jobs. Mmh. Ici, Elon Musk, il était applaudi pour dire bonjour. Alors moi, en toute transparence, j'ai pas regardé l'interview. J'ai lu que des articles qui disaient que c'était vide et qu'on apprenait rien et que c'était pas intéressant. Donc en fait, j'ai pas perdu mon temps. Surtout que comme toi, je suis un petit peu irritée par le personnage, même s'il faut reconnaître que il a une carrière remarquable. Mais du coup, c'est ça en fait le problème, c'est que là, a priori des articles que j'ai lus sur l'intervention, c'est que il avait beau faire des réponses sans vraiment de fond, parce que c'était pas creusé, il y avait pas de questions additionnelles dessus avec des propos vraiment intéressants, tout le monde hurlait en disant Elon Musk, je t'aime, etc., sans écouter vraiment ce qui était dit et sans s'intéresser aux propos. Et ça, c'est dommage. Oh, j'allais dire c'est problématique, mais après tu auras toujours des personnes peut-être qui ont ce genre de réaction, mais je n'irai pas à Vivatech pour ça en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir la chance d'avoir un partage d'expérience, une réflexion intéressante sur des sujets, surtout avec l'expérience qu'il a, surtout vu les challenges auxquels ces différentes compagnies font face. Je veux dire, il ne s'attaque pas à des petits problèmes quand même, ouais. Monsieur. Donc, il y a matière vraiment à creuser. Même si on n'est pas d'accord avec le personnage ou ses sorties sur Twitter, il y a matière, qu'on aime ou pas le personnage, à être intéressé par ce qu'il pourrait dire. Et là, a priori, j'ai l'impression qu'ils ont raté cette opportunité-là, ce qui est quand même assez dommage. Quoi.
Ouais. Ah non, mais complètement. Il y avait Christelle Edeman d'Orange qui a posé effectivement une question un petit peu pointue. Mais il a répondu, bon, à moitié. Mais déjà, je l'applaudis d'avoir posé cette question-là. Mais c'était la seule. Et puis, bon, bref, au-delà de la vacuité de l'interview qui était, encore une fois, je peux plus ou moins le comprendre parce que tu l'invites, il te fait le service, la gentillesse de venir, tu vas pas lui mettre des claques dans la gueule, même s'il était possible de poser des questions un petit peu plus profondes, je pense. Mais, et au-delà de ça, il y a des gens qui nous disent dans la chatroom, ah, mais Steve Jobs, Zuckerberg, Tim Cook, machin, c'est toujours comme ça. Non. Non, 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 c'est pas comme ça. Je vous jure que non, dans ouais. l'audience, c'était on avait l'impression d'avoir les Beatles sur scène, quoi. Limite, il y avait les culottes qui allaient être jetées sur la scène. Donc, bref, bon.
Et encore une fois, t'es pas obligé de le corneriser, c'est-à-dire que de
ouais, de le mettre, enfin, de le mettre dans cette position, dans ses retranchements.
Ouais, de le mettre à l'aise, mais tu peux avoir des vraies questions de fond qui, ouais. dans le cadre de VivaTech, en plus, s'y prêtent énormément, quoi. C'est des vrais ouais. sujets de fond, mais qui touchent pas que Twitter ou pas que les choix qu'ils font. C'est vraiment l'industrie de la tech en général, Internet des questions de fond, la modération, c'est une vraie bonne question de fond, toutes ouais. ces choses. Les
API, son expérience d'entrepreneur aussi.
Ouais. Ouais. Mais exactement, et pas du tout. Et c'est ouais. dommage, parce qu'en plus, faire venir quelqu'un comme ça, ça aurait été le cadre idéal pour pouvoir avoir ce genre de, ouais. de discussion, clairement.
Et ça l'aurait fait briller aussi, en fait. C'est ça aussi qu'on oublie. C'est un intérêt pour VivaTech et pour l'audience, mais c'est un intérêt aussi pour lui. Parce que là, en fait, un énième discours un peu langue de bois d'Elon Musk, enfin bon, surtout pour un public averti qui s'intéresse à la tech, à quoi bon, quoi.
Ouais, on est d'accord. Bon, écoutez, voilà pour nos trois sujets importants de la journée. Et on va passer aux news et rumeurs, non sans que je vous rappelle la chose encore plus importante qu'Elon Musk, c'est le soutien au Rendez-vous Tech. Oui, vous le savez, patreon.com/rdvtech pour soutenir. Vous allez partir en vacances. Bon, peut-être que vous avez déjà vos budgets bouclés et que ça y est, c'est terminé, on n'ouvre plus le portefeuille. Si vous avez quelques sous qui restent, vous pouvez aller sur patreon.com. Ça a beaucoup baissé ces derniers temps, hein, les soutiens. Enfin, les nouveaux ne reviennent pas et ne remplacent pas ceux qui partent. Mais du coup, je comprends que c'est les vacances, donc c'est pas grave. Si jamais vous vous dites, oh ben justement, les vacances c'est l'occasion, eh ben allez-y, patreon.com/rdvtech, et vous pouvez avoir des bonus absolument incroyables comme l'after show qu'on va faire tout à l'heure, ou encore les éditos, ou encore une newsletter étendue, etc., etc. Et le plaisir d'avoir dans votre cœur le savoir. Que vous soutenez le Rendez-vous Tech, et ça, messieurs, dames, ça n'a pas de prix. Enfin, 1, 2, 3 euros sur Patreon, quoi. C'est ça le prix.
C'est vous qui mettez le prix.
C'est ça.
Qui choisissez. À mon avis, le problème, Patrick, il vient du fait que le slogan en général, c'est tu rentres chez toi, tu poses les clés, cling, ah tu oui, penses merde. À t'abonner, mais du coup, quand t'es en vacances, tu rentres plus chez toi.
Mais c'est oui, ça, les c'est gens ça oublient. Le problème. C'est
faut trouver autre chose.
Bon, alors, il faut vraiment y penser. La prochaine fois que vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol. Là, vraiment, il ne faut pas oublier d'y penser. N'oubliez pas.
Faut que tu fasses des porte-clés Rendez-vous Tech.
Mais quel merchandising incroyable! Comment n'y ai-je pas pensé? Porte-clés Rendez-vous Tech, on va se mettre dessus. On note.
Une casquette, tu vois, là, nickel.
Ouais, très bien.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Et on continue avec les infos qui n'ont pas été sélectionnées malheureusement pour les trois infos importantes. Mais il y a quand même des trucs, le journal de l'IA notamment. Il faudrait un petit jingle pour le journal de l'IA aussi. La première, alors il y a des nouveautés légales, etc. Mais quelques nouvelles choses qui se passent dans la manière dont l'IA est utilisée. Est-ce que vous saviez que l'IA pouvait même aider Sir Paul McCartney a créé une nouvelle chanson des Beatles? Alors, pas tout à fait. Hein. En fait, Paul McCartney a annoncé que je ne pense pas que c'est lui qui a utilisé les petits logiciels d'IA pour le faire, mais ils avaient utilisé un logiciel d'IA pour extirper la voix de John Lennon de la dernière chanson des Beatles. C'est le dernier album des Beatles qui s'appelle The Final Beatles Record. Il y a une des chansons qui a pu être recréée en extrayant la voix de John Lennon d'un enregistrement de très mauvaise qualité qu'ils avaient. Et du coup, ils ont pu ensuite réarranger par-dessus pour créer une chanson qu'on avait entendue en bootleg, machin, mais qui n'était pas encore disponible officiellement. Et j'imagine qu'il y en aura d'autres. Alors, il y a toute une histoire avec Yoko Ono qui lui avait filé le truc, qui lui avait filé l'enregistrement, mais ils n'avaient pas pu l'utiliser, etc., etc. Donc ça, c'est une utilisation de l'IA qui s'implante dans la société. Il y a aussi de plus en
plus...
Moi, je dis,
si c'est pour avoir des nouvelles chansons des Beatles, oui. Hein,
ouais, c'est bon.
Mais est-ce que ce sera vraiment une chanson des Beatles ou pas?
Voilà le débat. Alors là, c'est un sujet de philo, là.
Si c'est produit par l'IA, est-ce que c'est vraiment John Lennon derrière?
Ouais, mais s'il y a Paul McCartney derrière...
c'est ça.
C'est vrai que ça fait pas le même effet si c'est Paul McCartney derrière que si c'était la maison de disques qui le faisait.
Avec ça.
Paul McCartney, on peut espérer qu'il y a un respect de son compagnon artiste, Yoko Ono en plus qui a donné accès à l'enregistrement. Donc on se dit, bon, il y a quand même un respect ici, quoi.
C'est ça, et puis ils peuvent refaire l'enregistrement tel qu'ils l'avaient imaginé ou tel qu'ils le comprennent, etc. Donc why not? Il y a aussi de plus en plus de célébrités qui utilisent l'IA pour donner accès à leur image à des marques qui vont ensuite utiliser leur image autrement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là non plus, il y a un long article dans le Wall Street Journal, mais en gros, ça peut leur permettre de faire des choses, peut-être même d'apparaître plus jeune ou de faire des choses qu'ils n'ont pas forcément besoin de faire. Tu signes le contrat et puis on utilise ton image et toi, tu restes chez toi à apprécier, le popcorn et Netflix.
C'est surtout des deepfakes.
Voilà, exactement. Ils font des deepfakes avec ton accord. En gros, c'est un petit peu ça.
Licence d'utilisation de ton image, c'est waouh.
Voilà, c'est ça. Licence d'utilisation de ton image avec les spécifications, est-ce que vous pouvez la modifier, etc. etc.
Exactement.
Et c'est marrant parce qu'on est vraiment là à des applications dont on disait il n'y a pas si longtemps que ça, un jour ça sera comme ça et vous imaginez, les célébrités vont accepter de donner leur image pour ceci et cela, c'est vraiment... Et bien là, on y est. Il y a un autre truc marrant, c'est que Carrefour a fait une implémentation de ChatGPT pour l'aide aux courses. Et Numérama a fait un test de cette implémentation. Bon, autant il y a des trucs qui fonctionnent bien, comme extraire la voix de John Lennon, autant ce truc avec Carrefour, ça n'a pas l'air incroyable, il ne trouve pas les bons produits, il n'arrive pas à faire les bonnes recettes avec les produits qu'on lui a demandés. Ça a l'air d'être un petit peu rapide comme implémentation de ChatGPT chez Carrefour, et le résultat n'est pas hyper convaincant. Un jour, ça le sera, mais là...
Tu prends le risque de finir à faire une tarte au concombre avec un truc comme ça.
Écoute, ça peut être très bon, une tarte au concombre. Qu'est-ce que t'as contre les concombres, Christophe?
Je n'ai rien contre les concombres.
Clairement, tu es anti-concombre. Pour ou contre les concombres, votez dans le chat.
C'est une vieille blague à mon père, ça, la tarte au concombre.
D'accord. Mais c'est un homme de qualité, puisqu'il aime les tartes au concombre, exactement, contrairement à son fils.
Tout à fait.
Le rift générationnel. Il y a aussi des choses qui se passent dans le domaine de la loi, avec notamment l'AI Act. Je crois qu'on l'avait évoqué la semaine dernière, je ne m'en souviens plus, donc je vais le rementionner rapidement. C'est encore une loi de l'Union européenne. C'est marrant vraiment parce que, enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à quel point on est passé dans un monde où est-ce qu'on peut avoir une influence sur ces GAFAM qui sont aussi puissants que des États ? Est-ce qu'on peut un jour les arrêter, machin ? Là, il n'y a pas une semaine sans que l'IE dise « Bon, bah maintenant, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça, et vous faites pas chier. » Toi, tu vas dans ton coin et tu sais, il y a les GAFAM qui vont « mais je... » Bon, bref. Donc, l'IA aujourd'hui, l'AI Act, fait... impose plusieurs choses, notamment aux fabricants, aux développeurs de modèles de langage et de modèles génératifs, comme par exemple le fait d'être plus clair sur leurs sources. Ça, c'est l'une des choses que j'ai retenues. Mais il y a aussi des impositions aux États. Hein. On ne parle pas que des sociétés, mais on a des impositions, des contraintes aux États, comme par exemple le fait de ne pas utiliser la reconnaissance faciale à large échelle. Et c'est marrant parce que ça vient la semaine où la France, en tout cas les sénateurs, ont voté une loi qui devrait autoriser le test de la reconnaissance faciale à grande échelle pendant, je ne sais plus combien de temps, c'est quelque chose comme 3 ans. Il y a eu une discussion très intéressante sur le sujet où un des intervenants disait quelque chose qu'il avait emprunté à quelqu'un d'autre, donc je ne me sens pas trop coupable de ne pas le citer directement. Il disait le problème, en fait, de la reconnaissance faciale à grande échelle, c'est qu'on peut se dire, oui, enfin, si ça aide la police, etc., il y a plein de choses qui aideraient la police. Et moi, a priori, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Est-ce que peut-être ça pourrait être positif ? Et la manière dont il l'a présenté m'a convaincu qu'en fait, ce n'était pas forcément une bonne idée. C'est ce qu'il a dit, c'est que la reconnaissance faciale à grande échelle, c'est le contrôle d'identité permanent et universel. Et là, tout à coup, tu te dis, est-ce que vraiment on a besoin ? Parce que, encore une fois.
Et le tracking, c'est-à-dire qu'on sera capable de te suivre précisément tout, par où t'es passé, tout le chemin, etc. Pas juste, juste des checkpoints.
Parce que, encore une fois, il y a plein de choses qui aideraient le travail de la police et qu'on limite parce que dans la société dans laquelle on vit, on décide que la police ne peut pas avoir des pouvoirs trop importants sans même faire de questions politiques. C'est factuel. Dans une société, on décide ce qu'elle peut ou ne pas faire. On pourrait dire, par exemple, la police peut perquisitionner sans décision de juge. Pourquoi est-ce qu'on conditionne ça à l'accord d'un juge ? Bah justement parce qu'on veut un équilibre des pouvoirs, etc. Et donc, la reconnaissance faciale, ça pose ce genre de problème à tel point que l'Union européenne a dit « bah non, ça, on n'en veut pas, donc on verra la manière dont ça va se passer en France ». Mais il y a cet ensemble de lois, il y a d'autres pays qui réfléchissent à des lois pour gérer l'intelligence artificielle aussi. Donc, les choses continuent à évoluer. Je trouve ça plutôt pas mal.
Et la reconnaissance faciale, elle touche un sujet que tu as mentionné dans tes articles, la discrimination aussi.
Bien sûr.
C'est qu'en fait, si tu peux reconnaître quelqu'un et l'identifier en temps réel, qu'est-ce qui se passe entre une personne qui a un casier et qui rentre dans un magasin versus une personne qui n'a pas de casier quand je parle de casier, c'est casier judiciaire, et qui rentre dans une boutique, etc. Comment, déjà qu'on a des biais et qu'on discrimine au quotidien, parce qu'on a tous des biais, qu'est-ce qui va se passer quand en plus on aura ce genre de contrôle à la volée, quoi?
Oui. Sans même parler du fait que les IA reconnaissent plus ou moins bien différents types d'ethnies, etc., etc. Donc,
ouais. Ça, c'est encore l'entraînement des modèles qui est fait sur un sample, un groupe de données qui n'est pas malheureusement équitable, on va dire.
C'est ça.
Représentatif.
Bon. Représentatif, oui. On continue avec d'autres sujets, un petit peu plus légers sans doute. Il semblerait que le Samsung Galaxy Z Flip 5, la cinquième version, présente un... Vous souvenez, hein, le Z Flip, c'est l'appareil qui se plie, qui est donc un téléphone de taille normale et qui se replie pour être plus petit. Eh ben, il aurait un gros écran sur la face repliée, comme le Motorola comment il s'appelle, Razer Plus, je crois, dont on parlait il y a une ou deux semaines. Ces appareils commencent à arriver vraiment à maturité. Je me demande si à un moment, il ne faudrait pas, pour le boulot, vous comprenez, que j'en teste un, moi. Je crois qu'il commence à devenir important de tester ces choses-là. Il me plaît plus.
T'as vu le prix, t'as vu le prix
c'est
que ça
coûte. Cher quand même. Ouais, juste pour
parce
tester.
Que c'est 1 800 euros, a priori, l'estimation du prix pour le Z Fold 5, c'est un truc de fou.
Bon, mais après, il va dire que c'est moins cher que le Vision Pro. Comme il est frustré de ne pas pouvoir tester le Vision Pro, bah, il va se venger avec...
Bah justement, le Vision Pro, tiens, il y a un article intéressant de Benedict Evans qui nous dit que selon son estimation, ce que montre le Vision Pro et la qualité du tracking et de l'implémentation de la réalité augmentée et virtuelle du Vision Pro, ce que ça montre, c'est qu'en fait, les appareils jusqu'à maintenant... Ben, ils ne sont pas assez performants. Les appareils de Meta, les appareils de Valve, etc., ils sont très bien, mais ils ne sont pas assez performants pour vraiment proposer une alternative, une évolution des interfaces informatiques. Et que peut-être que le Vision Pro commence à donner cette vision, sans mauvais jeu de mots, cette vision-là de l'informatique, ouais, et que c'est en fait c'est pas tant ce que j'en retire moi de ce qu'il dit, c'est pas tant que le Vision Pro, ça y est, on est arrivé, c'est surtout que en fait ce qui venait avant, parce que si même ça qui est tellement précis et efficace, eh ben ça suffit pas à faire rentrer l'informatique spatiale comme le dit Apple dans notre quotidien, il y a beaucoup de gens qui en doutent. Bah, ce qui venait avant, mais on était vraiment à l'état de même pas de bêta ou d'alpha, quoi. C'était perdu d'avance.
Mais c'est intéressant parce qu'il confronte l'approche de Meta, l'approche produit de Meta et l'approche produit d'Apple, en disant Meta, ils sont partis en se disant on va faire le minimum en termes de hardware. Et après, en fonction de ce qui va être développé, c'est le contenu qui va convaincre. Et en fait, Apple, eux, ils prennent le postulat inverse. Ils vont dire, on va vraiment viser le meilleur en termes de hardware pour que l'expérience qu'on a aujourd'hui avec des interfaces qu'on connaît déjà, parce que l'avantage d'Apple comparé à Meta, c'est qu'ils ont un App Store, ils ont déjà une expérience déjà disponible. Ils n'essaient pas d'inventer un univers virtuel. Ils ont déjà des apps et des services disponibles. Bah, ils vont se dire, voilà, quel est... le hardware qui va rendre cette expérience avec les apps qu'on a déjà parfaite et qui va potentiellement donner des idées pour encore développer des nouveaux usages. Donc en fait, il prépare un terrain favorable à explorer des nouveaux usages. Or, Meta se limite à des choses déjà existantes, de vieilles visions de réalité virtuelle. Enfin, je ne veux pas le dire de manière méchante, mais ils sont restés sur...
On voit que tu fais ton mieux pour ne pas le dire de manière méchante. Je ne sais pas si tu y arrives, hein, mais...
Mais c'est deux visions de ce qu'on appelle un peu la MVP, Minimum Viable Product. Mmh. Et comment elle peut se définir en « on fait le minimum en termes de hardware » versus, en fait, pour que l'expérience et les usages prennent, il faut investir plus ici dans le hardware. Et c'est intéressant, c'est vraiment deux approches radicalement différentes. Je suis sûre que Christophe a un avis là-dessus.
Oh là là, oui. Et dans ma vie, je pense que dans le MVP que tu as mentionné, ils ne visent pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a le MVP côté Apple où c'est plus la plateforme derrière. Et l'autre MVP, il est plutôt sur le logiciel derrière. Et le hardware n'est là que pour supporter le logiciel sur lequel ils ont une vision. Donc je pense qu'effectivement, on est, et je rejoins à peu près ce que tu dis, c'est que Apple va se concentrer sur le meilleur hardware pour aller explorer les usages aujourd'hui, en sachant qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas du tout explorées. C'est l'approche qu'ils ont prise, hein, très, très clairement. Et à mon avis, Patrick, d'ailleurs, si tu devais justifier un achat pour le boulot, ça devrait être plutôt un Vision Pro qu'un Galaxy Z Flip ouais. ou Fold, peu importe. Mais parce que non, mais c'est vraiment un côté exploratoire. C'est-à-dire que là, tu es vraiment sur un nouveau truc. Je pense qu'on passe un gap et il y a plein de choses à explorer derrière. Et le problème de ça, c'est que et il faut que ça embarque les développeurs pour pouvoir justement aller explorer ces usages-là. C'est-à-dire que c'est très bien technologiquement, ça explore plein de trucs, mais il faut qu'on crée ces expériences-là pour qu'après on puisse aller convaincre l'utilisateur que ça vaut le coup pour pouvoir acheter le produit. Et c'est là en fait où est-ce que Apple va réussir à franchir ce cap-là ? C'est un peu chaud quand même.
Clairement, Meta n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les développeurs se plaignent parce qu'ils sont trop contraints par les limitations du hardware disponible sur le Quest. Donc oui, mais là, c'est compliqué.
Ça,
quoi.
Ça va même plus loin. Les gens de Meta n'utilisent pas leurs produits pour leur boulot ou pour, tu vois. Donc clairement, ça fonctionne pas au-delà de quelques niches et d'enthousiastes. Mais bon.
Le truc, c'est qu'il faut le voir jusqu'au bout. C'est-à-dire que si pour que tu aies une expérience utilisateur qui soit au top, il te faut un hardware à 3 500 $ aujourd'hui. Si tu crées cette expérience-là, est-ce que les gens aussi derrière seraient capables, les utilisateurs finaux seraient capables d'investir autant juste pour cette expérience-là?
Ah, bah
c'est là où... ah, mais c'est pas pour cette année.
Bien sûr.
C'est vraiment pour les développeurs, pour leur permettre d'explorer. Ce sera dans je sais pas, 5 ans, je dirais. Peut-être 3-5 ans.
On est d'accord. Quelques autres news rapides. D'abord, Meta a rendu disponible sa fonctionnalité Broadcast Channels, qui est un Meta, pardon. C'est dans Instagram, on a une fonctionnalité en fait de messages un à plusieurs. Et on peut normalement s'abonner dans la partie message privé, message en direct, à un créateur qu'on apprécie. J'ai cherché la fonctionnalité, je ne l'ai pas encore, donc je ne sais pas si c'est pas encore arrivé ou si ça arrive bientôt ou je ne sais pas quoi. Mais,
un influenceur assez important,
c'est
Patrick.
Peut-être ça. C'est non, mais moi, je voudrais m'abonner aux influenceurs que j'adore, comme par exemple
si,
Aizea Design.
Ah non, alors là, ça risque pas. Moi. mais par contre, tu as Lena Situation qui a déjà sa chaîne. Il y a plusieurs
séries
en France depuis le 13 juin.
Elles ne sont pas dans les...
Alors, va sur son profil. Va
sur
son profil et normalement,
profil
je crois qu'il y a un lien.
La personne. Okay,
alors, soit donc... tu l'as suivi déjà et quand elle l'a créé, tu as reçu une invitation automatique. Mm-hmm. Soit tu ne la suivais pas au moment où elle l'a créé. Donc, dans ce cas, il faut aller voir son profil.
Mais du coup, effectivement, tac, 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 entre nous, canal de diffusion, eh ben, moi, je ne l'ai pas. Moi, je ne peux pas créer, mais je peux m'abonner à Lena Situation. Donc, ça va. Donc ça a commencé, c'est évidemment un truc pour se mettre au goût du jour de WhatsApp et de ce genre de channel de discussion, même s'ils sont parfois plusieurs. Et puis enfin, alors je trouve jamais le moyen d'en parler, mais il y a un shift intéressant qui se passe chez Spotify, qui passe du contenu exclusif de podcast à stratégie beaucoup plus. Alors, on va avoir les meilleurs produits chez nous, mais on va quand même laisser les gens partir ailleurs parce que l'exclusivité dans le podcast, ça n'a pas du tout marché. Et il y a une discussion intéressante à avoir sur ce média et sur la manière dont ça a fonctionné pour Spotify. En gros, ça ne s'est pas super bien passé pour eux avec leur stratégie initiale. Et là, ils font une sorte de petit pivot. Ils veulent produire les meilleurs podcasts chez eux. On verra ce que ça donne à terme. Mais il y a des choses qui continuent à se passer dans l'univers du podcast. Il y a même plein de choses qui continuent à se passer. Et moi, je suis ça de près. Marion, Christophe, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cet épisode qui a été, si je le dis moi-même, rondement mené et rondement commenté par vous. C'était fort agréable de passer un moment avec vous. Est-ce que vous pourriez me dire si les auditeurs qui voudraient passer un plus long moment encore avec vous, où est-ce qu'ils pourraient aller, ces auditeurs et ces auditrices ? Marion, où te retrouve-t-on sur Internet ?
Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter à Aizea Design ou tous les mardis matins de 8h à 9h sur Twitch, sur Naotech.
C'était toujours le mardi matin ? Je me souviens
plus.
Oui, c'est toujours le mardi. Oui, donc c'est tous les mardis, enfin tous les mardis. Une fois par mois, tu as Naotech et le rendez-vous tech. C'est
alors, ouais, c'est ça, exactement.
C'est le Tech Day.
C'est ça.
Ouais.
Marion Tech Day. Christophe, où es-tu ?
Moi, je suis sur Bordeaux, mais non. Sinon, vous me retrouvez sur Twitter.
Mais quel bar, quel café, où tu non ? Bon, sur Internet alors.
Ah, si vous voulez, on fait une IRL avec moi-même sur Bordeaux un jour. Mais contactez-moi sur Twitter, on va mettre ça en place. Chris Kamikas sur Twitter, Instagram, partout. Chris Kamikas.
Chris Kamikas, on aura le lien dans les notes de l'émission, le lien du compte de Marion également, et les liens de Patrick, comme tous les réseaux sociaux, mais aussi Discord, où on a des discussions fort sympathiques. On a aussi le Twitch, le channel Twitch, notre Patrick, hein, c'est pas dur, et où vous pouvez nous retrouver tous les mardis midi pour le rendez-vous tech et les jeudis midi pour le rendez-vous jeu, et patreon.com/rdvtech. Et on aura bientôt, je pense, des porte-clés Kling Patrick. Je pense que c'est une idée formidable qu'il faudra réaliser. Donc patreon.com/rdvtech pour, je sais pas, m'encourager à le faire ou ne pas le faire, c'est vous qui décidez. Merci à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.